À 7h46, la main verte, Alain Baraton, bonjour.
Heureux d'être avec vous, bonjour Pierre, bonjour à tous.
On se retrouve, on a un petit bonjour pour notre ami Eric Delvaux, qui a pris quelques heures de repos, mais il sera là la semaine prochaine.
Et il a bien raison, et on le salue.
Alors Alain, les amateurs de jardin ont rendez-vous ce week-end aux Journées des Plantes de Chantilly.
Cette manifestation est née il y a plus de 30 ans à Courson et se tient effectivement depuis 2015 dans les jardins du château de Chantilly. Une belle opportunité pour aller à la rencontre des meilleurs pépiniéristes d'Europe, converser avec des paysagistes, rosiéristes, collectionneurs, associations horticoles, spécialistes en outillage et en décoration. Cette année encore, près de 200 professionnels vous donnent rendez-vous et le lieu vraiment pour les passionnés de jardin est incontournable.
Alain Baraton, de tous les jardins créés par André Lenôtre, celui de Chantilly était son préféré.
En 1689, Lenôtre écrit à William Bentinck, le surintendant des jardins royaux d'Angleterre. Souvenez-vous de tout ce que vous avez vu de jardins en France. Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et les Tuileries. Et surtout Chantilly. J'observe au passage, Pierre, que la grande modestie du jardinier est assez incroyable. Il ne cite que des jardins qu'il a lui-même créés.
Et les jardiniers ne sont pas aussi modestes.
Oui, c'est sûr.
Voilà, Patricia. C'est le prince Louis II de Bourbon-Condé qui lui demande d'intervenir à Chantilly.
Oui, le grand Condé a besoin en effet de montrer au monde entier qu'il a retrouvé sa place auprès de Louis XIV après qu'il en ait été écarté pour avoir participé à la Fronde. Et quoi de mieux qu'un jardin pour afficher sa puissance? Le 21 avril 1671, c'est la consécration avec la visite du roi en personne. Les festivités durent 3 jours et permettent au monarque d'apprécier le travail du très célèbre maître d'hôtel Vatel et de savourer une crème neige de lait, la Chantilly.
Et Louis XIV apprécie aussi et surtout les jardins d'André Lenôtre.
À juste titre, car le jardinier s'est surpassé. Assisté des plus grands artisans, je pense à Jean-Baptiste de la Quintigny, le génial créateur du potager du roi à Versailles, Jacques de Mans, un hydraulicien renommé, l'ingénieur militaire Vauban ou encore Jules Ardoin-Mansart, excusez du peu, premier architecte du roi. Il s'entoure aussi, André Lenôtre, de son beau-frère Pierre de Gaulle et de son fils Claude et de son neveu Michel Le Bouteux, le jardinier du Grand Trianon à Versailles. Michel Le Bouteux qui est un homme qui est capable de faire des merveilles avec des fleurs venues du monde entier. Il est aussi l'un des plus grands jardiniers. Malheureusement, sa gloire posthume n'est pas celle d'André Lenôtre. Alors à Chantilly, le résultat est spectaculaire avec en premier plan un grand parterre orienté dans un axe nord-sud et composé de 2 carrés gazonnés qui semblent parfaitement, symétriques. Si vous allez à Chantilly, Pierre, eh bien vous aurez vraiment l'impression qu'il y a une symétrie inouïe. Et pourtant, un œil exercé constatera que le parterre est d'une surface très légèrement inférieure à celle orientée à l'est. De plus, les parterres sont trapézoïdaux et produisent ainsi, en misant sur l'effet d'écrasement dû à la perspective, un sentiment d'agrandissement. Il est impossible de faire mieux. André Lenôtre est donc capable de faire des effets d'optique avec le végétal. C'est véritablement à Chantilly qu'on peut le mieux en profiter.
Alain, l'eau est aussi très présente à Chantilly.
Et là encore, Lenôtre a réussi une prouesse technique et il le dit lui-même, il l'écrit. C'est un beau naturel de se voir tomber une rivière d'une chute étonnante et de faire l'entrée d'un canal sans fin. Il ne faut point demander d'où vient l'eau de ce canal. Effectivement, il a détourné l'eau de la Nonette, un petit cours d'eau, il l'a fait réapparaître dans un bassin. On ne voit pas cette petite rivière et on se demande d'où vient cette eau à Chantilly et Dieu sait si elle est présente. Alors Chantilly, c'est un jardin, c'est aussi un château, ce sont des écuries magnifiques, c'est une forêt giboyeuse et ce week-end, une fête des plantes et c'est dans le département de l'Oise, à une 50aine de kilomètres à peine de Paris. Et puis je voulais, si vous le permettez Pierre, saluer tous nos amis à Mulhouse. J'étais jeudi à Floriflore, manifestation qui recueille 140 000, enfin qui accueille visiteurs, c'est considérable, pendant une dizaine de jours. Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées à l'occasion de du baptême de la rose Floriflore m'ont parlé de vous, Pierre, bien sûr de vous, Patricia Martin.
Est-ce qu'il y a une rue Pierre Veille à Mulhouse? Vous savez qu'il y est né.
Non, mais je sais, donc on y pense sérieusement. Mais c'était un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent à Mulhouse et que j'ai eu la chance de rencontrer.
Mais c'est très gentil, et Mulhouse, c'est ma ville natale.
Et oui, et voilà. D'où mon intervention.
Voilà. Une sorte de gloire locale. Les questions des auditeurs. Les questions des auditeurs pour vous, Alain Baraton. Stéphane, un Polonia, c'est ça?
Polonia,
a choisi de s'implanter.
C'est pas un Polonais. Hein.
Non, un Polonia a choisi de s'implanter entre la porte d'entrée de mon cabinet et le grillage mitoyen. Je ne peux pas le laisser se développer à cet endroit, mais ne veux pas non plus le supprimer. Puis-je le déplacer, Alain Baraton?
Oh, même quand on dit je ne peux pas, il ne faut surtout pas. Le Polonia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme le catalpa. D'ailleurs, je me rappelle un vieux professeur qui me disait la meilleure façon de distinguer un Polonia d'un catalpa, c'est de compter le nombre de A. Dans Polonia, il y en a deux. deux. Les feuilles sont donc reliées deux par deux. Oui. Dans le catalpa, il y en a trois. Ah, donc les feuilles sont trois par trois. C'est pas plus compliqué. Le polovnia est certainement l'arbre que je connais qui pousse le plus vite. Et un polovnia, au bout de 30 ans, possède déjà un tronc d'un diamètre, j'allais dire, considérable. De plus, les racines risquent de faire des dégâts. Donc, on peut le déplacer à l'automne, l'installer où l'on veut, mais surtout, surtout ne pas le laisser. Il va faire de gros dégâts, car le polovnia, près d'une construction, oui, est source de dégâts.
André, je voudrais savoir comment être sûr que les pommes vertes claires de mon mini pommier de 1,20 m sont comestibles. Je n'ai jamais osé les goûter de peur de m'empoisonner.
Demandez à votre voisin si vous ne l'aimez pas de le faire à votre place et constatez ses allevenus en direction des toilettes. Soyez prudent avec les fruits quand on ne peut pas les identifier. Je vous cite un exemple tout bête, le pommier d'amour. Bah, le pommier d'amour, on l'a tous connu, on l'a offert, c'est une petite plante d'appartement qui appartient d'ailleurs à la famille des solanacées et non pas des rosacées. Donc certaines plantes s'appellent pommier et n'en sont pas. Là, je pense qu'il s'agit d'un pommier, mais soyons prudents, on ne mange que quand on est sûr que l'on va manger est comestible. Combien de personnes finissent à l'hôpital en automne sous prétexte qu'ils s'y connaissaient en champignons? On n'est jamais sûr de rien, on ne mange que quand on sait.
Rapidement, quelques secondes, Émilie nous écrit, les feuilles de mon azalée sont déformées comme boursouflées, que faire?
Oh, c'est la gale foliaire, c'est une maladie qui se développe sur le feuillage et les bourgeons, et elle est favorisée par un temps humide. C'est inesthétique, on supprime tout simplement les feuilles à la main, on les détruit, on ne les met pas sur le tas de compost, et on espère que l'année prochaine, eh bien, la maladie aura disparu.
Alain Baraton, merci beaucoup, et on se retrouve demain matin.
Avec plaisir.
Et évidemment, jeudi prochain. Pour les Rolling Stones.
Bien sûr.
Vous serez là-bas.
Bah, évidemment.
Jeudi.
Ah, bah, bien sûr.
À Nanterre.
J'ai déjà mes billets.
Parfait, impeccable.